France Inter, le 13-14, Christelle Rebière.
Une grève qui se profile à la SNCF pour les deux prochains week-ends extrêmement chargés. Des syndicats qui réclament la hausse des salaires pour faire face à l'inflation, sans compter la réforme des retraites qui sera présentée en janvier. Le début de l'année sera tendu entre les syndicats et l'exécutif. Quelle est la position de Force ouvrière? Jusqu'où la centrale est-elle prête à aller? On attend vos questions au standard, au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. Bonjour Frédéric Souillot.
Bonjour Christelle Rebière.
Vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière. Il y aura donc une grève des contrôleurs à la SNCF les week-ends de Noël et du jour de l'an. La CGT et Sudrail maintiennent leur préavis tout en n'appelant pas à cesser le travail. Ça devient subtil et franchement on s'y perd un peu. Quelle est la position de Force ouvrière?
Écoutez, la position de Force ouvrière, et j'avais écrit à ce titre-là au ministre des Transports pour qu'il nous reçoive, pour qu'on trouve une solution pour ces agents
pour les contrôleurs,
chefs de bord. On lui a écrit avec mon secrétaire général de la Fédération des cheminots pour qu'on trouve une solution. Les revendications des chefs de bord et des contrôleurs sont connues depuis 2005. Ils sont sédentaires sur leur contrat de travail et roulant en permanence. Et quand ils sont malades ou en arrêt, il n'y a pas le maintien de leur salaire comme roulant. Mmh. La prime qu'on leur propose... aujourd'hui, c'est pas leur revendication.
Alors, on avait compté 80% de grévistes chez les chefs de bord, ce qu'on appelle les contrôleurs. C'était début décembre, et en réalité, ce mouvement échappe aux syndicats. Ils revendiquent un collectif apolitique, 3500 membres sur une page Facebook. Ils disent que les syndicats ne font pas suffisamment remonter leurs préoccupations. Vous êtes en train de vous faire déborder?
Alors, je suis pas sûr qu'on se fasse déborder. Aujourd'hui, ils disent que leurs revendications sur leur page Facebook ne seraient peut-être pas entendues complètement. Alors, ils parlent que de leur corporation. Et les fédérations, quelle que soit l'organisation syndicale, défendent les cheminots en général et le statut des cheminots.
Oui, mais ils ont l'air de dire que vous n'arrivez pas à les représenter. Ça pose quand même une question. Le mouvement des Gilets jaunes avait commencé de la même manière avec un groupe WhatsApp. Ça vous questionne pas? Vous ne dites pas qu'est-ce qu'on doit changer? Comment les convaincre de rester avec nous et de se faire représenter par nous?
Eh bien, aujourd'hui, je travaille à les convaincre pour qu'ils soient représentés, et notamment par EFO. Et c'est pour cela que j'ai pris au mot le ministre des Transports quand il a dit... nous ferons le nécessaire pour trouver des solutions. Et c'est pour ça que je lui ai fait un courrier. Rendez-vous était prévu cet après-midi. Et le rendez-vous avec le ministère des Transports a été reporté en début d'année prochaine. Mais pour négocier, il faut être deux. S'il n'y a que le collectif ou que les organisations syndicales et que la direction ou le ministère des Transports ne veulent pas négocier, il n'y a pas de négociation. Et quand il n'y a pas de négociation, on arrive à un mouvement social.
Alors, d'une manière générale, les fiches de paye en ce moment courent après l'inflation, comme dans toute l'Europe d'ailleurs. Le salaire de base a augmenté de 3,7% au troisième trimestre sur un an, d'après la DARES. Oui. Mais les prix ont bondi, eux, de 5,7%, donc le compte n'y est pas. Et ce décrochage devrait continuer l'an prochain. Qu'est-ce que vous réclamez à Force ouvrière?
L'augmentation des salaires, c'est maintenant. Nous l'avons écrit sur le fronton de notre confédération, mais nous l'avons écrit déjà depuis quelques mois. Et... il faut que dans chaque entreprise, dans chaque branche, il y ait des négociations sur les salaires.
Les salaires ou les primes? Parce qu'attention, c'est pas la même chose.
C'est bien pour ça que sur
les entreprises proposent surtout des primes. Vous réclamez plutôt des augmentations de salaires.
Bien sûr, parce que les primes, c'est one shot. Et le mois suivant, vous avez la même inflation ou qui aura encore augmenté et vous devez repayer votre loyer, vos factures, les crédits pour votre voiture et pour le reste. Et quand vous allez demander un emprunt à la banque, notamment avec une prime PEPA ou je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, on vous demande que vos trois derniers bulletins de salaire, si vous êtes malade, vos trois derniers bulletins de salaire, toutes ces primes qui sont allégées totalement de cotisations, elles ne rentrent pas dans votre salaire.
Mais ces augmentations de salaire risquent de créer une spirale inflationniste.
Alors ça, c'est ce que nous disent les économistes depuis des années. Sauf qu'aujourd'hui, l'inflation... c'est pas avec les augmentations de salaire qu'elle a été créée. Donc la récession et la spirale inflationniste, je n'y crois pas. Si on veut, c'est avec notre salaire qu'on remplit le frigo. si on veut éviter la récession ou la crise inflationniste, il faut relocaliser, réindustrialiser notre pays. Et puis, surtout, augmenter les salaires.
Pardon. Alors, aux dernières élections professionnelles dans la fonction publique, le mois dernier, Force ouvrière a ravi la place de deuxième à la CFDT. La CGT est en première. J'imagine que c'est une satisfaction pour vous. FO progresse en particulier chez les agents hospitaliers. Mais la participation à ces élections s'est effondrée. Elle a perdu 6 points par rapport à la dernière fois. On était à 43% de participation seulement. Une fois de plus, il y a un problème de légitimité des syndicats.
Ah non, il n'y a pas de problème de légitimité des syndicats. Ce qui a fait baisser la participation, c'est le vote électronique pour l'ensemble des trois versants de la fonction publique. Dans certains endroits, on a quand même continué à voter à l'urne. Et ceux qui avaient proposé le vote électronique pour tout le monde, la Cour des comptes ou la CNIL, eux ont voté à l'urne, avec un taux de participation de 80%. Donc, revenons au vote à l'urne, papier.
À l'ancienne.
C'est pas à l'ancienne. Regardez les élections politiques. Elles sont bien à l'urne et papier, même si certains réfléchissent à un vote électronique. Et on l'a vu aux États-Unis, comment ça peut faire varier les choses avec le vote électronique et ceux qui s'en emparent. On est très très fiers d'avoir progressé et de rester le premier dans la fonction publique d'État, puisque nous sommes la première organisation syndicale dans la fonction publique d'État, et en progressant en termes de voix.
Je suis persuadée que le syndicalisme est mortel, disait Laurent Berger de la CFDT il y a 5 ans. C'était une mise en garde contre le risque d'éclatement, comme ce qui s'est passé pour les partis politiques. Ce sera à nous de montrer que l'on est incontournable, disait-il. Est-ce que le péril est plus fort que jamais, à votre avis ?
Alors le péril, je ne sais pas s'il est plus fort que jamais. Je laisse à Laurent Berger...
D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ?
Non.
Non, pourquoi ?
Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, notre système de protection sociale et tout ce qui fait le contrat social et la cohésion sociale de notre République, c'est le paritarisme et les négociations entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés. Sous le quinquennat précédent, on nous a expliqué que le dialogue social ne servait à rien. Depuis qu'il n'y a plus de majorité absolue, on entend dans chaque discours, il faut revenir au dialogue social. On n'aurait jamais dû l'arrêter, le dialogue social.
Venons-en à la réforme des retraites, Frédéric Souillot. Elle ne sera finalement présentée que le 10 janvier par Elisabeth Borne. C'est un recul d'Emmanuel Macron ou une tactique plutôt maligne ?
Je ne sais pas si c'est ou l'un ou l'autre, mais... Dans tous les cas, pour nous, organisation syndicale, et nous sommes toutes les organisations syndicales françaises, il n'en manque aucune, où nous disons pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. S'il doit y avoir une réforme, c'est toutes les revendications que nous avons posées depuis le mois d'octobre, lors des concertations, notamment l'emploi des travailleurs dit âgé, de 55 à 64 ans, où nous avons le plus bas taux d'emploi de l'Union européenne. Et 50% de ceux qui liquident leur retraite aujourd'hui à 62 ans ne sont déjà plus en emploi.
Donc pour vous, le principal problème de cette réforme des retraites, c'est le maintien dans l'emploi des seniors ?
Non, le principal problème, c'est l'emploi en général, mais les emplois pérennes et bien rémunérés. CDI, et bien rémunéré et pas au SMIC comme on peut le voir aujourd'hui.
Donc qu'est-ce qui va se passer le 10 janvier ?
On ne sait pas, c'est...
Si, vous devez avoir une petite idée quand même.
Je ne sais pas ce que va présenter comme projet la Première ministre.
Attendez, vous avez été reçu par Olivier Dussopt, vous, la semaine dernière encore, non ? Le ministre du Travail, vous avez discuté avec lui, non ?
Non.
Donc vous savez à peu près ce qu'il y a dans dans la réforme d'Elisabeth Borne.
Dans le projet de loi qu'Elisabeth Borne devrait présenter le 10 janvier, on ne sait pas. Il y a beaucoup de si, et parce qu'on a porté des revendications sur pénibilité, mais je rappelle que c'est cette même majorité qui avait supprimé tous les critères de pénibilité dans le quinquennat précédent. On a parlé aussi des carrières longues, mais nous ce que l'on a dit, et les uns et les autres, c'est l'emploi en général et les emplois pérennes. Et 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. Ils sont à l'assurance chômage, en arrêt maladie ou invalidité. et 18% d'entre eux sont aux minima sociaux, voire au RSA. Mmh. Alors, et ce n'est pas un choix, ça.
Frédéric Souillon, on a un auditeur qui nous appelle de Gap, qui s'appelle Pierre et qui a une question à vous poser. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Bienvenue bonjour, sur France Inter. On vous écoute.
Oui, je suis un peu étonné du fait que, alors que le gouvernement justifie la réforme des retraites par l'argument financier, aucun syndicat, à ma connaissance, ne demande l'abolition du premier acte d'Emmanuel Macron par rapport à la réforme des retraites en janvier 2020, c'est-à-dire la baisse des cotisations des plus hauts revenus sur la partie supérieure de leur salaire. Ça, je ne comprends pas.
Frédéric Souillot.
Alors, déjà, les arguments financiers que prône l'exécutif, ben, il n'y a pas d'argument financier pour une réforme des retraites.
Pourquoi ?
Ben, parce qu'aujourd'hui, nos systèmes sont équilibrés. Les mêmes économies et le corps...
Le conseil d'orientation des retraites, oui, mais alors il y a toutes les interprétations possibles. Chacun interprète à sa façon les conclusions
mais
du
si
corps.
Mais si on augmente de 10 points l'emploi des 55-64 ans, c'est-à-dire 820 000, ça fait 50 milliards d'euros. On parle de milliards aujourd'hui, comme on parle d'euros devant la machine à café. Ça fait 50 milliards d'euros en 2032. Donc, il n'y a pas de souci de financement. Maintenant, les allègements de cotisations pour les plus hauts revenus ou pour les plus bas revenus, nous critiquons, et notamment à Force ouvrière, les allègements de cotisations, puisque notre système de protection sociale collective, c'est les cotisations salariales et les cotisations patronales. Mmh. C'est ce qui fait le paritarisme et c'est ce qui a fait la cohésion sociale de notre République.
Si jamais on ne va pas jusqu'aux 65 ans que prône Emmanuel Macron et qu'on s'arrête sur une formule mixte, c'est dans les tuyaux apparemment, un report de l'âge de départ à 64 ans avec une accélération de la durée de cotisation à 43 ans en 2035, vous dites quoi ?
Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation et c'est ce que nous écrivons dans tous nos communiqués. Et s'il y a recul de l'âge de départ ou allongement de la durée de cotisation, si pour l'exécutif c'est la mère des réformes, pour nous ce sera la mère des batailles.
Et la bataille, elle commencera quand dans la rue ?
Ben, le jour où la Première ministre présente son projet de loi au gouvernement.
C'est-à-dire le 10 janvier ?
Ah non, elle le présente au public le 10 janvier.
Ah oui, d'accord.
Et après, elle doit le présenter au gouvernement pour l'envoyer vers les assemblées.
Le gouvernement devrait probablement faire passer le texte dans une nouvelle version du projet de loi de finances de la Sécurité sociale en utilisant une fois de plus le 49.3. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça, Frédéric Souillot ?
Alors, c'est un projet de loi de finances rectificative qu'elle devrait faire. Et bien, ce que nous allons faire, nous allons mobiliser, comme nous l'avions fait
vous
pour la retraite
par points. Vous allez mobiliser avant ?
Bien évidemment, dès qu'il y aura présentation du projet de loi au gouvernement, nous mobiliserons.
Mais au fond, ce sont les Républicains qui feront la différence. C'est avec les Républicains qu'ils peuvent obtenir une majorité sur ce texte.
Mais moi, je ne suis pas
Vous n'êtes pas élu, vous n'êtes pas député, donc c'est ça ma question.
Ce ne serait pas la première fois que grève et mobilisation bloqueraient un projet.
Merci beaucoup. Merci.
Et nous bloquerons.
Merci. Frédéric Souillot d'avoir été l'invité du 13-14. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de Force ouvrière.